Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Au menu aujourd'hui, l'info du jour. À Rennes, le giratoire à la hollandaise est opérationnel. Deux interviews, d'abord pour annoncer la nuit du droit à Rennes, puis pour parler landes et tourbières bretonnes avec un passionné, François de Beaulieu. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, puis une recommandation, une conférence pour aider les aidants avec le magazine L'Obs. Bienvenue dans l'Arène. Tous les jours, on commence cette émission avec l'info du jour, une info que je retiens pour vous, et on maintient cette tradition encore aujourd'hui, en parlant du rond-point à la hollandaise, mais un rond-point bien rennais, qui est désormais opérationnel. En effet, depuis quelques jours, le giratoire des Gailleuls attend les cyclistes, avec la promesse d'une circulation sécurisée. Alors, il faut s'imaginer une piste cyclable bidirectionnelle, mais séparée de la voie réservée aux automobilistes, et le trottoir dédié aux piétons est, lui, surélevé. L'aménagement avait d'abord été testé à titre expérimental en 2021. L'idée, c'était d'apaiser l'ambiance pour les différents usagers, qu'ils soient à vélo, à pied ou en voiture, dans un lieu qui est très fréquenté. On est à proximité du parc des Gailleuls et de la ZAC Saint-Sulpice, ZAC pour zone d'aménagement concertée. Chaque jour, ce sont 25 000 voitures qui passent par ce point. Et les résultats de l'expérimentation, eh bien, ils sont bons. Baisse de la vitesse des véhicules motorisés, notamment. La ville a donc décidé de pérenniser son installation avec des travaux lancés au mois de mai. L'opération intègre aussi une désimperméabilisation et à la place du bitume, des arbres et des espaces verts vont être plantés sur une surface de 1 700 m². Pour compléter le projet, sur un volet écologique, là encore, l'éclairage public a été remplacé par des LED qui sont moins énergivores. D'autres giratoires de la capitale bretonne devraient être aménagés de la même manière. Promesse de l'adjointe aux mobilités à la ville de Rennes, Valérie Faux. C'était au printemps, avec cet objectif de multiplier par 3 la part modale du vélo dans Rennes Métropole. La part modale, c'est le pourcentage de voyageurs qui utilisent un type de transport, un chiffre qui est aujourd'hui de 3% aujourd'hui pour le vélo. Voilà pour l'info du jour. Tout de suite, on passe à une première interview. Rosaine Leneillon-Raymond, bonjour.
Bonjour Lucie.
Je vous présente, vous êtes chargée de communication à la Cour d'appel de Rennes qui organise à l'échelle rennaise sa 5e nuit du droit. Rendez-vous pour la vivre au Parlement de Bretagne mercredi 4 octobre de 17h à 22h. On commence par redire que la nuit du droit, c'est un événement donc national qui s'apprête à vivre sa 5e édition. Il avait été lancé en 2017 par Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est cette institution qui contrôle la conformité des lois. À quoi il sert ce temps fort à l'échelle de la Cour d'appel de Rennes? Vous y voyez quel intérêt?
L'intérêt, c'est d'ouvrir les portes de la Cour d'appel de Rennes, donc qui siège au Parlement de Bretagne, à un grand public, toute personne qui est curieuse de savoir comment ça fonctionne, curieuse de rencontrer des professionnels de la justice, et pas que. L'intérêt, c'est aussi pour les étudiants, par exemple, qui ont besoin d'en savoir un peu plus. Et parfois, on rencontre des étudiants qui ne savent pas s'ils veulent être avocats, notaires ou magistrats, en tout cas qui sont intéressés par le droit. Donc la porte leur est grande ouverte.
Vous sentez qu'il y a peut-être aussi un mur à briser entre les citoyens et cette cour d'appel dont on franchit les portes uniquement quand on a des problèmes, en gros, dans sa vie?
Tout à fait. Oui, l'objectif, c'est de contrer en fait cette image qui peut être un peu... Enfin, la justice est mise à mal. Donc l'objectif est de montrer que la cour d'appel et donc ses magistrats, ses professionnels sont ici à leur écoute, sont là pour échanger et puis démystifier aussi ce métier qu'on a du mal à comprendre, et aussi parce que c'est aussi du vocabulaire qui est compliqué, c'est un domaine qu'on a l'impression qu'il n'est pas du tout accessible alors que c'est pas vrai. Pour preuve, on a de plus en plus de magistrats présents au stand métier, et qui ont une vraie volonté de transmettre et d'expliquer, de prendre le temps. On a vraiment beaucoup de chance à la Cour d'avoir des magistrats qui sont accessibles pour cela.
Le stand métier, c'est un des stands qu'on retrouvera donc mercredi 4 octobre de 17h à 19h au Parlement de Bretagne. C'est peut-être le moment où on explique un peu plus que c'est une cour d'appel. À Rennes, elle est donc installée place du Parlement en plein cœur de ville. Pour faire simple, on y juge les affaires judiciaires pour lesquelles un appel a été requis. Ça veut donc dire qu'une décision a été contestée dans son premier jugement. Est-ce que j'ai bien résumé ?
C'est tout bon. La cour d'appel connaît les audiences des procès qui ont été jugés en première instance. Donc, elle connaît des procès à la fois civils et pénaux. Et on a également, ce qui n'est pas le cas dans toutes les cours d'appel de France, on a également la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine et la cour criminelle départementale à la cour d'appel de Rennes.
On a fait le calcul, là, avant de débuter cet échange. En 2022, 14 446 affaires ont été rendues au pénal et au civil, donc à la cour d'appel de Rennes, qui couvre en fait le territoire breton. Hein.
Alors, pas que. La Bretagne et la Loire-Atlantique.
Et alors, combien de professionnels et avec quelle casquette travaillent au sein de cette cour d'appel ?
À la cour d'appel de Rennes, on a environ 170 personnes qui sont à la fois donc, des magistrats, des greffiers et des fonctionnaires. On a également des huissiers dans les salles d'audience qui ne font pas partie des effectifs de la cour d'appel de Rennes, mais qui sont missionnés pour gérer ou coordonner les audiences pénales.
On a parlé des affaires jugées au pénal ou au civil. Il y a peut-être des auditeurs qui ne comprennent pas bien la différence entre le pénal et le civil. Est-ce qu'on peut résumer
Oui, alors je vais résumer très, très simplement. Une audience pénale va, par exemple, avoir avec toutes les audiences correctionnelles, donc des affaires de stupéfiants, des affaires d'abus de confiance.
Criminels aussi.
Alors les crimes, en fait, sont des procès qui vont être que la cour d'assises va connaître. Donc la cour d'assises ne connaît que les crimes. On entend par crime les viols, les vols en bande organisée, les meurtres,
homicides.
Les homicides, etc. Alors que les audiences civiles ont affaire toutes les audiences familiales, d'assistance éducative, les audiences dites construction, les audiences prud'homales, voilà.
Il se trouve que cette cinquième édition de la Nuit du Droit, elle a lieu l'année du 65e anniversaire de la Constitution de la 5e République, adoptée en 1958. Une constitution qui, si on regarde un peu l'actualité, au printemps a encore été chahutée, plutôt dans le cadre d'un mouvement citoyen opposé à la réforme des retraites, puisque notamment le 49.3 est inscrit dans cette constitution. Et il en sera question de la Constitution sur l'événement ou même pas forcément ?
Non. En fait, le Conseil constitutionnel donc, a eu cette belle initiative de proposer et en tout cas de donner l'opportunité à toutes les juridictions, mais pas que, donc les tribunaux judiciaires et les cours d'appel, de créer cet événement. Et nous avons en fait l'objectif d'ouvrir nos portes et de proposer des animations ou des rencontres avec des professionnels. Mais la juridiction a la main sur l'organisation en elle-même, de sa nuit du droit.
En Bretagne, la nuit du droit, elle donne lieu à plusieurs propositions mercredi. Il se passe des choses du côté de Saint-Brieuc, Saint-Malo, Vannes et donc Rennes. On commence par dire...
Quimper. Tout le temps, à l'initiative, fait beaucoup, beaucoup de choses.
Pardon, Quimper. On commence par dire que la partie représentation qui est prévue à Rennes sous forme de procès fictif, ça débutera à 19h30. Eh bien, cette proposition affiche complet. C'est le cas tous les ans quand j'annonce la nuit du droit, puisque c'est un rendez-vous qui est très prisé du public. Est-ce que vous prévoyez un moment de changer de salle, de prévoir des jauges plus importantes ? Parce qu'il y a vraiment, je pense, une fascination, notamment pour ce format du procès fictif.
Ouais. On a un succès assez énorme. Lorsque la diffusion de la réservation a été lancée, en 24 heures, on affichait complet. Nous avons l'objectif, effectivement, d'ouvrir un peu plus l'accès à ce procès, mais pour des raisons techniques, cette année, on n'a pas pu le faire, mais on pourra le faire dans une grande salle qui s'appelle la Grande Chambre, qui est magnifique, et on pourra là accueillir beaucoup plus de personnes, parce que le procès fictif se tient dans la cour d'assises qui a une jauge d'une centaine de personnes environ, alors que la Grande Chambre peut accueillir beaucoup plus de monde.
Et il se trouve qu'il y a des étudiants qui participent à ce procès, donc ça doit aussi amener voilà, ce public étudiant lors de cette représentation. Un procès fictif qui sera mené contre la Cour criminelle départementale avec le public qui participera au jury. Ça se déroulera donc mercredi en soirée. Si je vous reçois, c'est pour annoncer ce qui va se passer l'après-midi, mercredi 4 octobre, de 17h à 19h. La Cour d'appel de Rennes, on le redit, qui est installée place du Parlement, elle accueille le public sur, on va dire, un espace de rencontre, d'information. On retrouvera avec la Cour d'appel de Rennes plusieurs de vos partenaires sur les questions d'accès au droit. On les cite ?
Oui, cette année, c'est une année assez exceptionnelle parce qu'on a énormément de partenaires. C'est la première année qu'on a autant de partenaires. On a, alors, pour les citer, les notaires bretons, le barreau de Rennes, l'École des avocats du Grand Ouest, donc l'EDAGO, l'Institut National de Formation des Notaires. Nous avons également la chance d'avoir des conciliateurs qui seront là pour expliquer leur métier. On aura également le Conseil départemental d'accès au droit d'Ille-et-Vilaine qui va pouvoir expliquer ce qu'on peut faire si je veux m'entretenir avec un avocat, comment ça se passe. Et nous aurons également cette année, c'est une première, une association d'étudiants en droit qui s'appelle donc l'association UBIDEM, qui est une association de l'École nationale supérieure de Rennes et qui va présenter ses actions qui sont notamment des conférences, des colloques. Également, ils ont une clinique juridique. Ils ont vraiment un nombre impressionnant d'actions qu'ils mènent et donc ce sera l'occasion de présenter leurs actions. Et il y aura également Champ de Justice, c'est une association qui est rennaise et qui œuvre pour des actions en justice comme des colloques, des lectures. Ils font beaucoup, beaucoup et on est souvent partenaire avec eux.
L'association Champ de Justice, dont le grand projet serait d'installer un espace plutôt muséal dans l'ancienne prison Jacques Cartier, ici à Rennes, un projet qui est encore à conjuguer au futur. L'idée, la mercredi, c'est que les Rennais et les Rennaises puissent déjà franchir les portes du Parlement de Bretagne, ce qu'on ne fait pas forcément souvent, mais aussi puissent venir librement s'informer en fonction de leur situation personnelle. Vous l'avez déjà dit, vous pensez aux étudiants qui peut-être ont envie de s'orienter vers ce champ du droit, et aussi aux citoyens, qu'ils soient confrontés à la justice ou pas forcément, par curiosité ?
Oui, tout à fait, pas forcément. On observe chaque année alors beaucoup d'étudiants qui viennent seuls ou alors qui, des beaucoup plus jeunes, hein, des collégiens et des lycéens qui viennent avec leurs parents généralement pour se renseigner. Mais il y a aussi un public tout à fait varié qui, alors d'abord, c'est vrai que le Parlement de Bretagne est un bâtiment qui incite la curiosité. Et au contraire, c'est bien que toute personne puisse venir nous rejoindre parce que c'est un événement, encore une fois, grand public. Et que dans notre vie, on a tous affaire, d'une manière ou d'une autre, à la justice, que ce soit auprès d'un notaire, que ce soit auprès d'un avocat. Et donc, voilà, c'est le moment de venir. Et vous venez sans vous justifier, vous venez librement. Voilà, c'est un accès libre.
Il y aura des stands métiers, un stand accès au droit, un stand conciliation. On peut peut-être s'arrêter sur les consultations juridiques gratuites que vous proposez, parce qu'on sait quand même le frein financier que ça peut induire, le coût d'une telle consultation. Là, on vient, c'est gratuit.
Alors, c'est gratuit. Il n'y a pas de réservation. En général, on a beaucoup de succès pour les consultations juridiques des avocats. Donc, en fait, il faut juste attendre son tour. Il y aura quand même trois avocats présents sur les stands, donc n'hésitez pas à venir, et les notaires proposent également des consultations juridiques gratuites. Donc c'est vraiment le moment d'être en face à face avec un notaire et poser toutes les questions qu'on peut se poser sur des successions, sur des patrimoines, sur plein de choses.
La succession et le patrimoine feront aussi l'objet de conférences. Il y en aura trois, des conférences là aussi animées par des professionnels. La jauge est limitée, mais on vient là aussi librement. Trois sujets seront évoqués à partir de 17h30.
Donc alors de 17h30 à 18h15, un notaire proposera une conférence sur les successions et pourra répondre aux questions sur notamment quels sont les avantages fiscaux, jusqu'où puis-je privilégier quelqu'un. Et puis, on va enchaîner sur une autre conférence donnée par un autre notaire qui portera sur le patrimoine, et on répondra à la question: comment transmettre son patrimoine dans les meilleures conditions? Peut-on avantager un proche? Quelles sont les règles à respecter? Comment anticiper sa succession? Comment optimiser la fiscalité de son patrimoine? Et on aura la chance, dans un tout autre registre, de recevoir Maître Cécile Fornier et Maître Blin sur les questions de violence intrafamiliale. Quelles sont les mesures de protection, justement, pour les personnes qui vivent malheureusement ce fléau ?
Je vous représente Rosane Lenayon. Raymond, vous êtes chargée de communication à la Cour d'appel de Rennes qui organise avec des partenaires sa 5e nuit du droit à Rennes. Rendez-vous au Parlement de Bretagne mercredi 4 octobre à partir de 17h pour l'espace d'information, de conférence et de consultation en libre accès qu'on a évoqué. C'est de 17h à 19h et pour plus d'infos, deux sites internet, lanuitdudroit.fr pour la programmation nationale de cet événement et le site de la Cour d'appel de Rennes, cour d'appel de Rennes.fr. Merci beaucoup.
Merci.
The Sorcerers et le morceau Exit Athens sur Canal B, une nouveauté musicale qui a été sélectionnée par Yann, notre programmateur. C'est un single qui est sorti le 1er septembre chez Atta Records. Et alors, The Sorcerers, c'est un groupe originaire de Leeds qui est mordu de jazz éthiopien et de funk et qui officie depuis 2015. Vous êtes en train d'écouter La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Vous êtes soit branché sur le 94.0, vous avez peut-être la radio numérique terrestre, le DAB+, si vous êtes dans un véhicule plutôt récent, et vous pouvez aussi nous écouter en ligne sur le site canalb.fr, un site où sont disponibles l'ensemble des podcasts réalisés par les salariés, mais aussi par les bénévoles. Allez, c'est le moment d'une deuxième interview. François de Beaulieu, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes écrivain, ethnologue et bénévole à l'association Bretagne Vivante et vous serez surtout l'invité du prochain Café de l'Espace des Sciences. Rendez-vous au Café des Champs Libres ici à Rennes, mercredi 4 octobre à partir de 18h30 pour parler des Landes et des Tourbières. On commence par dire que vous ne serez pas seul pour animer cette rencontre. Vous serez accompagné de Sébastien Gogo, il est enseignant-chercheur en écologie au laboratoire EcoBio qui est installé ici à Rennes. Si on vous présente un petit peu plus, vous, François de Beaulieu, vous vivez à Morlaix, donc en Finistère Nord. Vous avez été enseignant et puis l'auteur de plus de 70 livres sur le patrimoine naturel et culturel de Bretagne. Comment on explique votre intérêt pour ce patrimoine ?
Il s'est trouvé que j'ai habité les Monts d'Arrée, que c'est un endroit qui apporte des émotions très fortes. Et puis que une des rares petites compétences que j'avais, c'était de savoir à peu près écrire en français et que les spécialistes, ils n'avaient pas le temps d'écrire des livres ou pas envie. J'ai démarré en écrivant sous leur contrôle et de fil en aiguille, j'ai été sollicité par des éditeurs et mon travail, ça a été de, à la fois d'apporter les informations, mais aussi de dire l'émotion qu'on peut ressentir devant la nature. Et pour moi, c'est une des meilleures motivations qui existent pour donner envie de la protéger. Après, il y a plein de bonnes raisons rationnelles, scientifiques de le faire, mais c'est au contact de la nature qu'on commence à comprendre qu'il y a quelque chose d'essentiel pour les humains qui est là sous nos yeux.
On peut dire un mot sur les derniers ouvrages que vous avez écrits qui ont été publiés. On a parlé de ce livre « Race bretonne, une histoire bien vivante » qui a été réalisé en lien avec une exposition proposée à l'Écomusée de la Bintinet ici à Rennes. Ce livre, il est sorti fin 2022. Et là, au printemps 2023, vous avez écrit un manuel de savoir-vivre avec l'Ankou et les créatures de l'autre monde. Je peux vous laisser en dire un mot ?
C'est venu de cette idée que finalement, on raconte des histoires sur l'Ankou, mais on ne se rend pas compte à quel point, dans la société traditionnelle, tout ce qu'on pouvait dire était très cohérent. Et j'ai eu cette intuition que, dans le fond, derrière chaque histoire, il y avait un conseil pour un comportement à suivre par rapport à l'Ankou ou par rapport à lavandière de la nuit ou au chat noir ou aux divers fantômes qu'on pouvait croiser. Et de rassembler ces éléments-là pour en montrer la cohérence, la rigueur et finalement le fait qu'on croyait à cet univers parallèle des revenants. Mais en fait, on l'avait apprivoisé, on se disait que y avait une résidence secondaire au cimetière pour nos ancêtres, mais qu'ils revenaient régulièrement et que le tout était de ne pas les froisser, de tenir compte de leur présence. Finalement, derrière ce qui pouvait sembler irrationnel, il y avait beaucoup de rationalité. Et c'est cet aspect-là que j'ai essayé de souligner dans ce petit livre, qui est en même temps plaisant, avec des dessins de Nono pour l'illustration. Je peux aussi vous annoncer que dans une quinzaine de jours, on pourra trouver en librairie un nouveau livre qui s'appelle « Le loup en Bretagne hier et aujourd'hui.
Et juste pour Lankou, pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, donc c'est une personnification de la mort qu'on retrouve plutôt en Basse-Bretagne. On arrive au sujet de la rencontre de mercredi qui aura donc lieu au Café des Champs Libres à partir de 18h30. Il faut qu'on commence par définir ce que le son, les landes et les tourbières. Les landes d'abord qui sont peut-être plus identifiées par le public, sont souvent couvertes de bruyères et d'ajoncs. On peut parler de terres pauvres, non cultivées, qu'on trouve aujourd'hui surtout en bord de mer, même si elles étaient présentes de façon plus importante aussi dans les terres avant.
Vous avez presque tout dit. Les landes, ça a été un élément dominant des paysages agricoles bretons, puisque au moment de la Révolution française, il y avait de l'ordre du tiers de la surface de la Bretagne qui était couvert de landes et de terrains incultes. Ce qui représentait à peu près 1 million d'hectares. C'est immense. Et il y avait des endroits où ça pouvait représenter jusqu'à 80% du territoire d'une paroisse. Et puis, avec l'évolution agricole et la possibilité d'utiliser des engrais venant de l'extérieur, le guano du Chili, par exemple, les sous-produits des sucreries nantaises, et puis d'avoir des moyens pour travailler le sol un peu plus efficace avec des charrues modernes, on a petit à petit défriché une grande quantité de ces landes. Et en un siècle, elles ont énormément régressé, les derniers défrichements ayant été faits dans le cadre des remembrements des années 1960-70, pour aboutir aujourd'hui à ne plus avoir que 14 000 hectares de landes pour toute la Bretagne. 14 000 hectares, ça a l'air beaucoup comme ça, mais en fait, c'est un carré de 12 km sur 12. Donc, il y en a un petit peu en frange littorale avec quelques sites, mais même les grands sites, c'est quelques centaines d'hectares de landes. Et puis, à l'intérieur de la Bretagne, il y a des fragments dans les landes de Lanvaux, dans les landes autour de ce qu'on appelle Brocéliande, et puis les monts d'Arrée qui restent le seul grand ensemble de landes assez cohérent, plus de 8000 hectares, encore fonctionnels, qui sont le cœur, en fait, de ce patrimoine essentiel pour la Bretagne et constitutif du paysage emblématique, ces landes où effectivement on a une association de bruyères et d'ajoncs avec quelques graminées comme végétation dominante, c'est quelque chose d'irremplaçable.
Pour vous compléter, donc ce mouvement là de recul des landes, il a commencé au 19e siècle. Aujourd'hui, pour les auditeurs qui se demandent où on peut en trouver des landes pas très loin de Rennes, il en reste notamment sur le site de Bouel, pas très loin de Rennes. On arrive aux tourbières. Là, moi, j'ai plutôt une image de marécage, de zone humide. On est assez proche de ça.
C'est une zone humide, bien sûr, mais ce ne sont pas des marécages. Les tourbières sont un milieu très original parce qu'elles sont essentiellement constituées par la décomposition d'une mousse spéciale qu'on appelle la sphaigne. Alors, il y a beaucoup d'espèces de sphaigne qui se décompose parce qu'elle a en quelque sorte les pieds dans l'eau, elle n'a pas de racines et qu'elle est dans un milieu où il n'y a pas d'oxygène. Cette lente décomposition va constituer la tourbe et elle a une capacité à retenir l'humidité qui est de l'ordre de 30 fois leur poids sec et à maintenir cette humidité de manière assez constante. Mais évidemment, dans les périodes de sécheresse, elles vont relarguer l'humidité et puis dans les périodes humides, elles vont absorber. Donc, ce sont aussi des régulatrices du régime des eaux. Et ces tourbières qui vont se trouver, là aussi, pour les principales de Bretagne dans les monts d'Arrée, sont des éléments essentiels de la capacité à retenir l'eau quand le temps est humide et à en redonner quand il s'assèche.
Donc des tourbières qu'on trouve surtout dans des collines, donc les monts d'Arrée, on en trouve aussi dans les montagnes noires et au cœur de massifs granitiques en Bretagne. Le point commun entre les Landes et les tourbières, c'est que ce sont des espaces qui étaient autrefois symboles de misère et d'insalubrité. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit à première vue de zones non exploitées par l'homme. Pourtant, qu'on parle des Landes ou des tourbières, on s'en est servi, hein, notamment la tourbe, ça a été exploité comme combustible, notamment.
Oui, la tourbe était exploitée comme combustible, mais surtout, ce sont les Landes qui, pour le pâturage et pour couper de la litière qui servait à faire le fumier, étaient un élément essentiel de l'agro-système breton traditionnel. Une bonne ferme était une ferme qui avait des Landes. Si on n'avait pas de lande, on n'avait pas suffisamment de production de paille pour faire du fumier. Et puis, on n'avait pas assez de prairies pour faire pâturer le bétail. Et donc, c'était essentiel d'avoir des landes qui, pour une grande partie, étaient en fait aussi des terrains communs. Les grandes landes appartenaient aux villages et non pas à des individus. Et c'est par la loi qu'à partir de 1850, on a imposé le partage des landes pour encourager leur défrichement.
Aujourd'hui, on sait leur rôle salvateur à ces landes et tourbières, puisqu'elles constituent des puits de carbone. En gros, elles absorbent du CO2 transformé comme dans les forêts, finalement, par photosynthèse et rejettent de l'oxygène. Les tourbières s'avèrent encore plus performantes que les landes dans cet objectif-là. Il y a ça, et puis on imagine aussi que ce sont des milieux qui attirent une faune, une flore particulière.
Oui, bien sûr, les landes et les tourbières parent justement la pauvreté du sol. Hein, on parle de milieux oligotrophes, hein, qui sont très pauvres. Il n'y a que certaines plantes qui peuvent y vivre. Et donc, les bruyères sécrètent en plus des produits toxiques qui empêchent d'autres plantes de s'installer. Dans les tourbières, on va trouver des plantes adaptées à la pauvreté du sol, comme par exemple les plantes carnivores, qui, ne pouvant pas puiser suffisamment de ressources dans le sol, vont capturer des insectes pour s'alimenter. C'est tout un ensemble de plantes qui ne poussent que là et nulle part ailleurs, qui font aussi la richesse écologique de ces milieux.
Et pour la faune, est-ce qu'il y a aussi des choses à dire ?
Alors, les Landes, c'est un milieu original dans la mesure où il est aussi un milieu qui a été en partie créé par l'homme. Alors, sur le littoral, les conditions de climat font que les landes sont stables. Elles ne bougent pratiquement pas là où elles sont exposées aux embruns, au vent, etc. Par contre, à l'intérieur, les landes, elles ont tendance à pousser, à grandir, et elles peuvent, au bout de centaines d'années, elles pourraient recréer les forêts qui étaient là avant que les hommes ne viennent faire des défrichements. Mais les usages agricoles ont fait que pendant longtemps, on a fauché les landes en rotation et qu'une lande, on la fauche tous les 4-5 ans, ce qui fait qu'on a des tailles différentes et on avait une espèce de mosaïque avec énormément de diversité qui permettait à beaucoup d'invertébrés de s'y reproduire. Imaginez que sur un hectare de lande à peine, on peut découvrir que vivent plus de 150 espèces différentes de papillons de nuit, pour ne parler que de ça. Pourquoi ? C'est un milieu qui ne reçoit aucun traitement chimique, c'est un milieu où il n'y a pas de pollution lumineuse, et on a donc cette extraordinaire variété d'invertébrés. S'il y a des invertébrés, il y a des prédateurs d'invertébrés et donc, par exemple, tout un tas d'espèces d'oiseaux qui vont vivre dans les landes et s'y reproduire et s'y nourrir. Parmi les oiseaux qui se reproduisent dans les landes, il y a deux espèces de rapaces, les busards, busard cendré, busard Saint-Martin, qui nichent dans les landes hautes et qui vont chasser dans les terres agricoles autour, mais aussi dans les landes plus rases, celles qui, par bonheur, sont encore fauchés par des agriculteurs. Il y a des aides agri-environnementales pour ça. Et c'est tant qu'on maintient une pression agricole sur ces landes pour qu'elles soient fauchées, qu'on en maintient la diversité. Aujourd'hui, les Landes tiennent à la présence des agriculteurs et aux aides qu'on peut leur apporter pour les faucher.
Et ben justement, on arrive un peu à une question sur ce mouvement de sauvegarde des Landes et des tourbières. Pour vous présenter, j'ai dit que vous étiez bénévole dans l'association Bretagne Vivante. Il se trouve que cette association, avec d'autres financeurs, notamment publics, mène un programme de restauration des Landes dans les 5 années à venir. 200 hectares de Landes et de tourbières vont être restaurés dans le Finistère pour un coût d'1,6 million d'euros. Il y a une prise de conscience, on peut parler d'un vrai mouvement de sauvegarde qui se met en place, ou c'est-on encore trop peu?
Alors, il s'agit d'un programme européen, l'AEF, qui est porté par le Parc naturel régional d'Armorique, auquel participe Bretagne Vivante, en particulier pour les inventaires ornithologiques, et c'est effectivement des moyens qui sont affectés à de la restauration, parce que il y a des Landes qui ont évolué depuis des années, qui sont en train d'être un milieu complètement fermé, favorable aux incendies. Hein, s'il y a eu ces grands incendies l'année dernière en Bretagne, dans les monts d'Arrée, c'est parce qu'il y avait trop de Landes qui n'étaient plus fauchées ou pâturées. Et ça a favorisé l'extension des incendies. Donc, il s'agit de reprendre la main sur la gestion des Landes et de favoriser le travail des agriculteurs dans ces milieux.
Je vous représente, François de Beaulieu, vous êtes écrivain, ethnologue, bénévole dans l'association Bretagne Vivante, et vous serez l'invité avec Sébastien Gogo du prochain Café de l'Espace des Sciences. Ça se passe à chaque fois au Café des Champs Libres, ici à Rennes, et ça commencera donc le mercredi 4 octobre à partir de 18h30 pour parler plus dans le détail des Landes et des tourbières en Bretagne, un sujet qui par ailleurs était évoqué dans le magazine Science Ouest, magazine de l'Espace des Sciences, au mois d'avril 2023. Pour plus d'informations, il y a toujours le site internet espace-science.org. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Maintenant, je vais vous parler des montagnes d'Arrée, c'est d'accord. Mais pour ça, il faut de la musique. Dans les montagnes d'Arrée, on a tout, plus que partout ailleurs. On a de la brume, plus que partout ailleurs. Du vent, de la pluie, plus que partout ailleurs. De la bruine, plus que partout ailleurs. C'est un pays d'eau, et l'eau, c'est la source de la vie. Et de la ville, il y en a dans les monts d'Arrée, plus que partout ailleurs. Christophe Colomb et Magellan ont traversé tous les océans. Marco Polo, sous son bateau, est allé à Cipango. Il n'avait pas besoin d'aller si loin pour trouver l'aventure au bout du chemin. Il suffisait pour ça d'aller, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Il suffisait pour ça d'aller, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Il pleut le matin, il pleut le midi, demain ça fait briller la pluie. Le mois de juin, y a des giboulées, le mois d'août est bien arrosé. Et quand vient l'hiver au fond des vallées, il n'y a que des flaques et des lacs gelés. C'est un pays de pionniers, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
C'est un pays de pionniers, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
C'est un pays pour les garçons qui boivent cul sec et qui puent des pieds, qui ont la barbe en paillasson et la langue en toile cirée. C'est un pays pour les hommes forts qui ont une haleine de hareng sort. Et nous, on va y aller, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Et nous, on va y aller, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Et hop là! Des femmes si jolies à vous donner l'âme, vaillantes, intelligentes et fières, elles sont les plus belles de la terre. Vous serez séduit et envoûté, vous ne pourrez plus vous en détacher. Pour les trouver, faut aller où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Pour les trouver, faut aller où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Vous tous qui êtes là, qui m'écoutez, si le cœur vient à vous manquer, si le quotidien vous paraît gris, sachez qu'il est un pays où vous devrez vous battre avec le vent, la pluie, mais chaque jour sera une aventure. Et puis, vous trouverez ce dont vous rêvez, où ça?
Là-bas. là-bas dans les monts d'Arrée.
Vous trouverez ce dont vous rêvez, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Alors n'attendez plus et venez, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Hey, hop là! Alors n'attendez plus et venez, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Alors n'attendez plus et venez, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Là-bas dans les monts d'Arrée par Patrick Ewen, c'est le choix musical de l'invité qu'on vient de quitter, François de Beaulieu, un titre de 1992 à retrouver sur l'album Berceuse pour les vieux enfants. C'était le troisième disque solo de ce conteur et musicien breton, lui-même originaire de ces monts d'Arrée. L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B continue. Au passage, tiens, si vous avez une action ou un événement à annoncer aux auditeurs, que ce soit avec une association, collectif ou autre structure, tant qu'il ne s'agit pas d'un événement purement lucratif, vous pouvez m'en informer par email à l'adresse lucie@canalb.fr et puis après, je reprends contact avec vous pour vous proposer de vous rencontrer ici, en studio, pourquoi pas sur le terrain sous forme de reportage, où il est aussi possible d'annoncer cette action sous forme de recommandation. Et c'est l'heure. Et oui, chaque jour avant de se quitter, une recommandation. Ce sont souvent des événements locaux, mais aussi des choses à lire, à voir ou à écouter. Aujourd'hui, on annonce une conférence organisée par le magazine L'Obs en partenariat avec Rennes Métropole et la mutuelle La Massif. Aider les aidants, c'est le thème du rendez-vous, proposé mercredi 4 octobre de 18h30 à 20h30 à l'hôtel de Rennes Métropole. C'est tout près du métro Clémenceau. Alors il y a les publics fragilisés et puis il y a ceux qui les accompagnent, les soutiennent, les prennent en charge au quotidien, j'ai nommé les aidants. Comment la société peut-elle mieux aider les 10 millions d'aidants français sur le plan logistique, psychologique, mais aussi humain, sans pour autant chercher à les substituer? C'est bien là le défi. Élément de réponse au cours d'une soirée animée par le rédacteur en chef adjoint à l'Obs, le public pourra écouter des médecins, découvrir des initiatives comme la plateforme des super actifs. Ce sont des services proposés par de jeunes retraités aux particuliers. Mais les participants pourront aussi assister à des tables rondes, il y en aura deux, pour approfondir ce sujet des aidants familiaux et aussi rencontrer une créatrice de podcast sur cette question. Le nom de son podcast, c'est Les Décalés. Un rendez-vous qui est gratuit, là, la conférence qu'on annonce. Pour les inscriptions, ça se passe sur le site withevent.com.
Décalé. Aujourd'hui, je suis avec Julia Foyce, que vous connaissez certainement par son émission En Marge sur France Inter. Bonjour Julia, comment ça va?
Écoute, ça va pas mal à part une rage de dents carabinée, parce que oui, j'ai décidé d'en parler. Ça fait une semaine que je dors assis, c'est quand même une expérience particulière. J'ai dû décaler mes vacances, enfin bref, tout va très très bien. Mais malgré ça, non, ça va bien.
Mais tu as accepté quand même de venir au micro de Décaler.
Avec grand plaisir. C'est terminé, une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour, pourquoi pas, s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.